Alors, les commissaires spéciaux. Ouais, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que ces commissaires spéciaux, en tant qu'historien, je les ai pistés hein, le long de la frontière entre l'Est et le Sud-Est de la France, dans une thèse qui était dirigée par mon voisin de gauche. Et pour dire tout de suite que comme praticien, c'est une source exceptionnelle, vraiment une source exceptionnelle, diversifiée, mais bien sûr, selon ce que nous avons à la fin, assez hétérogène, à la fois hétérogène dans sa composition, puisqu'il y a beaucoup de rapports sur des sujets différents, mais aussi hétérogène par rapport à ce que les archivistes ont pu collecter et classer dans les différents dépôts. Hein. Voilà. Ça, il faut le dire en préalable. Bon. Je vous renvoie aussi tout de suite à travaux également de Marc Ortolani sur cette question dans un certain nombre de publications importantes, voilà, et vous dire que dans le contexte des années 1880-90, même s'ils ont été créés avant, ils s'incluent dans un contexte de militarisation de la frontière, d'augmentation du personnel de contrôle et de surveillance à la frontière et de protectionnisme douanier. Alors, ces commissaires spéciaux, quand sont-ils nés? Eh bien, ils sont nés sous le Second Empire, et plus exactement par un décret du 22 février 1855, qui crée ces postes de commissaires spéciaux, qui vont au gré... alors, commissaires spéciaux, bien sûr, qui sont des commissaires spéciaux de la police des chemins de fer, à l'origine, et qui vont donc s'étendre au gré de l'extension géographique du réseau ferré. On sait que le Second Empire a été une période particulièrement importante par rapport à cela. Et puis, chose qui n'est pas si commune, ils ont été conservés par la Troisième République et on peut considérer, on doit considérer que leur nombre explose à la Belle Époque, notamment pour un besoin de contre-espionnage, bien sûr, sur le territoire français, on va y revenir. Puisqu'entre 1899, où ils sont un peu plus d'une centaine, 122 exactement à l'échelle française, et 1914, où ils sont près de 400, 387 pour être exact, vous voyez l'augmentation importante. Alors, qui sont ces commissaires spéciaux ? Ben, ce qui les caractérise d'une certaine façon, c'est la mobilité qui est au cœur de leur métier. Ce sont des hommes en mouvement. Des hommes en mouvement, d'abord, bien sûr, via le réseau ferré, mais aussi à pied. Ils font beaucoup de rondes à pied dans les montagnes, puisque vous allez voir, ils ne se limitent pas, bien sûr, au passage frontalier de plaine. Alors, disent les textes officiels, pour les choisir, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Eh bien, des hommes intelligents et habiles, en bon français, ça veut dire plus instruits que le reste du personnel de police de l'époque, donc des bons commissaires qu'on essayait de un peu mieux payer pour, effectivement, les valoriser. Et puis, bien entendu, ils ont été créés sous le Second Empire, un personnel qui doit être dévoué. Mais ce qui est important comme qualité à avoir pour exercer ce métier, c'est une excellente capacité d'observation, premièrement, mais aussi d'analyse. C'est-à-dire tirer les bonnes conclusions pour éclairer l'autorité supérieure sur un certain nombre de situations. Donc, d'une certaine façon, ce sont les yeux et les oreilles, et on peut dire les cerveaux du ministère de l'Intérieur, mais on va le voir pas seulement, aux marges du territoire. Alors, où sont-ils où sont-ils en général en France ? Bon, ils sont en général dans les chefs-lieux de départements et on va dire les grandes villes pour aller vite. Ils sont aux frontières, on va le voir, frontières à la fois terrestres et maritimes. Et puis, ils sont là où se trouvent les grandes concentrations ouvrières. Hein. On ne peut pas ne pas avoir un commissaire spécial, par exemple, au Creusot ou dans le bassin urbain du pays de Montbéliard pour prendre deux concentrations ouvrières du 19e siècle. Alors, dans les Alpes-Maritimes, ils sont à Cannes, alors en partie, puis en hiver, puis ensuite, ils partent en été à Isola, ils sont à Nice, ils sont à Menton, ils sont à Fontan, ils sont à Saint-Martin-Lantosque, comme on disait avant, c'est-à-dire Saint-Martin-Vésuvie, etc., etc. Bon. Bien sûr, ils n'ont pas le même travail à Menton, où ils vont plutôt regarder un petit peu les passages en gare, et puis à Isola, où leur métier va être plutôt tourné vers des tournées le long de la frontière, etc., et parfois à saut de frontière. Alors, que font-ils ces commissaires spéciaux ? Bien, Ils font des enquêtes et des observations, donc du recueil de renseignements précis et circonstanciés, à la suite soit de déplacements sur place, mais aussi de remontées d'informations de tout un réseau. Ils sont à la tête, on va le voir, d'un réseau alors plus ou moins hiérarchisé, avec des chefs de groupe, mais aussi avec un certain nombre d'informateurs, facteurs ruraux, gardes champêtres, etc., etc. Alors, traduction de rapport, comment ? Soit à la suite d'une saisie de l'autorité supérieure, du préfet ou de l'autorité militaire essentiellement, ou alors de leur propre initiative. Sur quoi font-ils des rapports ? Alors, bon, ils ont été créés sous le Second Empire, donc l'état de l'opinion. Hein, l'état de l'opinion, et ici, bien sûr, l'état, j'allais dire, de l'irrédentisme. Vous avez beaucoup, beaucoup de rapports des commissaires spéciaux sur les écoles italiennes et les autres émanations de la Dante Alighieri locale, les actions du consul d'Italie, etc., etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus large. Quand on parle d'état de l'opinion, ça peut être aussi toute une information économique. Alors, c'est sans doute lié à la sélection des sources qui a été faite et au classement, etc. Il y a ici quand même une faiblesse de l'information économique, mais ces commissaires spéciaux ont une mission d'information économique. Leur mission principale, et je l'ai dit, même s'ils l'outrepassent largement, nous allons le voir, c'est le contre-espionnage, qui passe au ministère de l'Intérieur pour faire vite en 1899, lors de la suppression de la section statistique du deuxième bureau de l'armée. Mais ils font ça sous l'autorité du préfet, mais ils continuent à renseigner l'autorité militaire. Alors, autre, donc je passe vite et on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. Ils sont donc à la tête d'un service de renseignement territorial qui est sous l'autorité du préfet, mais toujours au service de l'armée. Ils font aussi de la surveillance des individus suspects, et notamment, bien sûr, quand on dit individu suspect, des étrangers. Et puis, ils ont, en plus de l'activité de surveillance, de contre-espionnage, etc., une mission d'espionnage, de regarder ce qui se passe, en tout cas, de l'autre côté de la frontière. Donc de décrire avec précision les mouvements de troupes italiennes, les travaux du génie italien, l'arrivée, le départ des géomètres. Alors c'est très important parce que vous le savez, à partir de 1882, l'Italie est dans le camp d'en face, hein, donc alliée avec l'Autriche et l'Allemagne, donc potentiellement un ennemi dont on devra évacuer les ressortissants en cas de guerre. Hein. Il ne faut jamais oublier ce contexte international. Alors, mais bien entendu, ils sont aussi des retranscripteurs importants des passages de frontières et des passages à la frontière. Ils recueillent ici beaucoup d'informations. En même temps, ils vivent souvent à la frontière et donc ils sont au courant de la vie quotidienne à la frontière. Et parfois, ils prennent position par rapport aux intérêts des populations frontières. Alors, j'essaye d'aller le plus vite possible, soigner. Alors, qui informe-t-il ? Donc, préfet, sous-préfet, je l'ai dit, donc, in fine, le ministère de l'Intérieur, mais aussi ministère, par exemple, des Affaires étrangères via l'Intérieur. Par exemple, il y a un problème, une violation de frontières, un problème international, et le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères veut être renseigné sur un problème précis, eh bien, il va passer par le ministère de l'Intérieur et le commissaire spécial va faire un rapport circonstancié. Et bien entendu, ils informent le chef d'état-major de Nice, hein, extrêmement important, donc le ministère de ce qu'on appelait à l'époque le ministère de la guerre. Alors, je pourrais vous donner des exemples, mais je les passe allègrement. Pour m'interroger rapidement sur ont-ils vu de visu ce qu'ils relatent ? Alors, oui, en général, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ils s'appuient sur des chefs de groupe, ils s'appuient sur tout un réseau, donc ils ont aussi une notion importante de synthèse. Hein, voilà. Alors, cachent-ils des choses au préfet ou à leurs interlocuteurs ? A priori, non, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont des gens dévoués, mais ils peuvent cependant mentir par omission, c'est-à-dire ne pas évoquer certaines rencontres, puisque ce qui est très intéressant dans les rapports des commissaires spéciaux, alors ça se justifie s'ils sont interceptés, ils ne citent pas souvent leurs sources hein, dans les rapports même, et parfois d'ailleurs c'est le rôle de l'historien de s'interroger sur la source. Alors on le sait très bien, souvent ils ont franchi la frontière, eux aussi ils ont vécu la traversée de la frontière pour aller interroger des gens de l'autre côté de la frontière. Et c'est le cas aussi avec les autorités italiennes qui sont leurs homologues de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant dans le rapport du commissaire spécial, et j'ai déjà commencé à l'évoquer avec les sociétés frontières tantôt, c'est qu'ils peuvent orienter leur rapport dans un sens justement favorable ou défavorable à un individu, c'est-à-dire justifier ou pas une expulsion par exemple, ou essayer de revendiquer les intérêts des sociétés de frontières. Si on se place maintenant au début de la Première Guerre mondiale, vous savez que les frontières ont été fermées à l'automne 1914 en grande partie, et qu'au début de 1915, se pose un problème important, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué ce matin, c'est tous ces Italiens ou ces Français qui vont en Italie et qui participent aux travaux agricoles. À la frontière, il n'y a pas de frontière justement pour les travaux agricoles. Et bien les autorités politiques se disent en janvier-février 1915, la frontière très bien, mais il faut continuer à nourrir les populations. Il faut donc que les Italiens soient exemptés de passeport, parce que on avait institué un passeport au début de la Première Guerre mondiale, et bien sûr il faut faire des kilomètres, beaucoup de kilomètres pour aller chercher un passeport. Donc on va faciliter avec un certain nombre de papiers, un certain nombre de cartes frontalières, si vous voulez, qui vont permettre un franchissement plus aisé de la frontière, et on va leur permettre aussi de franchir la frontière par des points plus nombreux que les gares, hein, puisque si vous avez un passeport, vous deviez absolument passer par le réseau ferré, par une gare. Et cela, bien, le commissaire spécial prend position par rapport à cela et dit qu'il faut absolument le faire. C'est très intéressant parce que les commissaires spéciaux sont un petit peu moins proches des populations frontières que les douaniers, bien sûr, qui sont souvent recrutés sur place et qui sont extrêmement proches des populations frontières, et même plus proches d'un corps qui est en train de se constituer véritablement et qui est en train de monter en puissance, pas de se constituer, mais de monter en puissance au XIXe siècle, qui sont les gendarmes. Donc ces positions sont tout à fait intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc dans ces articles, donc des rapports, etc., annoncés au préfet. Donc, je vous ai dit des fonds qui sont parfois pas très homogènes. Alors, quel passage de frontière les commissaires spéciaux décrivent-ils? Et d'une certaine façon, puisqu'ils les décrivent, ils les contrôlent également. Alors d'abord, vous l'avez peut-être déjà évoqué, ce sont les militaires. Hein, les militaires qui franchissent la frontière, notamment lors de marches dans la Roya. Comme les commissaires spéciaux passent leur vie à décrire le mouvement de ces troupes, ils évoquent également le franchissement. Alors, bon, pas forcément. Donc ça peut être des franchissements qui sont des franchissements volontaires, mais pas toujours. Ça peut être aussi des franchissements qui sont effectivement liés à la topographie du lieu. Par contre, ce qui pose plus de problèmes, et on le voit dans leur rapport, ce sont les militaires, comme ils les appellent, en costume et parfois en armes, qui n'ont pas été arrêtés par les douaniers et qui passent de manière individuelle la frontière. Là, il y a un contrôle assez sévère. On les amène au poste, on les interroge, etc. etc. Bon, des deux côtés de la frontière, il y a aussi les déserteurs. Hein. Les déserteurs, donc, d'abord, le commissaire spécial dit toujours « je lui ai dit de retourner d'où il vient hein. ». Mais bon, s'il ne retourne pas d'où il vient, je l'interroge et s'il peut éventuellement être utile, et notamment, je vais l'amener vers Nice et puis on verra bien ce qu'on fait avec lui. Par contre, c'est très sévère pendant la période de la Première Guerre mondiale, puisque vous savez qu'il y a des accords entre la France et l'Italie en 1916 de mémoire pour la remise réciproque des déserteurs. Et là, effectivement, bien, l'échange change véritablement. Franchissement donc terrestre, mais aussi franchissement des civils par la mer. Et je vais vous résumer, j'aurais pu vous lire de façon très circonstanciée un rapport, mais qui est assez intéressant. Il y a un cas qui est un petit plaisancier qui balade des touristes au large de Menton et qui, par inadvertance, passe la frontière. Alors lui, il est déserteur vis-à-vis des autorités italiennes. Et là, alors qu'il a fait son service militaire en France, qu'il est fils d'Italien né à l'étranger, mais il y a une loi en 1889 qui s'appelle la loi du double droit du sol, on pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure, mais qui dit qu'effectivement, à la suite de la loi de 1889, cette personne est bien française. Donc considéré comme déserteur en Italie, mais français en France, d'une certaine façon, avec la nationalité française. Et là aussi, le commissaire spécial rappelle cette affaire, remet cela en contexte, et rappelle tous ces éléments. Donc c'est très important, et émet un avis qui sera suivi, bien sûr, par l'autorité supérieure sur le bien fondé de cela. Mais, ce qui est très intéressant, il dit, voilà, c'est bien, légalement, cette personne, il est bien français. Mais à la fin, il dit, de mémoire, je sais plus, il y a quelqu'un d'extrêmement violent. Donc, en gros, là, il est en prison en Italie, on ne va pas l'aider. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut toujours lire le rapport du commissaire spécial jusqu'à la fin, parce que l'avant-dernière phrase ou la dernière phrase peut totalement renverser les choses et dire à l'autorité militaire une chose. Ok, légalement, il a raison, mais on ne va absolument pas l'aider parce que c'est un malfrat, etc. Alors, il ne dit pas s'il se livre à la contrebande, mais ça, c'est une autre question. Bien sûr, des passages de travailleurs par l'arrière-pays, donc frontière des Alpes et frontière du littoral. Vous savez qu'il y a entre 20 et 25% de présence italienne à Nice ou à Marseille, à Nice et à Marseille au 19e siècle, enfin au 19e siècle qui est à la Belle Époque, donc au recensement de 1911 si on veut faire. Et donc c'est très important. Et donc le contrôle de ces travailleurs, qui sont encore en partie des saisonniers tout de même, est important. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand ils contrôlent les retours, c'est-à-dire les retours de France vers l'Italie des travailleurs italiens, notamment à la suite de faillites. À la suite de faillites, le commissaire spécial parfois dit, j'ai l'exemple par exemple de 76 femmes italiennes qui ont été rapatriées du Vaucluse par le consulat à la suite de la faillite d'une filature. Voilà, il dit, voilà, le consulat, il a agi, le consulat italien sur place a agi pour leur retour. Donc, il y a aussi prise d'information dans ces rapports par rapport au retour. Et ça, c'est intéressant. C'est une des rares sources qui nous permet d'avoir ces éléments-là. Bien sûr, passage des migrants qui vont aller d'Italie ou de plus loin, par exemple d'Autriche, pour aller prendre le bateau à Marseille pour ensuite aller aux Amériques. Donc, vous avez ici sous les yeux, j'ai un télégramme qui, ça doit être 1902 ou 1903, passage des migrants autrichiens qui se rendent en Amérique et qui passent donc à Menton pour arriver au port de Marseille. Et puis, bien sûr, passage de touristes. Alors, quand c'est des touristes lambda, ça va. Exactement, c'est ce qui me reste. J'avais bien calibré. Quand c'est des touristes lambda, ça va, mais bien sûr, quand c'est des officiers italiens qui viennent en villégiature dans les Alpes-Maritimes, ils sont sévèrement surveillés, hein, rapport à l'arrivée et rapport lorsqu'ils s'en vont avec descriptif du séjour et éventuellement rapport intermédiaire pour dire ce qu'ils font, hein. Alors bien sûr, bon, lui, le roi d'Italie vient, mais il vient de l'autre côté de la frontière. On a aussi, quand il vient chasser le chamois, hein, puisqu'on dit qu'un certain nombre de territoires ont été laissés à l'Italie pour que le roi d'Italie puisse venir chasser le chamois, tout cela est également décrit. Hein. Le commissaire spécial va vous décrire par le menu ce qui se passe. Aussi intéressant de ce point de vue du tourisme qui naît au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et qui s'intensifie, enfin, qui ne naît pas, mais qui s'intensifie à la fin du 19e siècle, ce sont par exemple le passage à Menton en avril 1894 d'excursionnistes américains qui font le tour du monde, par exemple. Et ça, c'est une source exceptionnelle par rapport à cela. Et puis, je ne pouvais pas quand même finir sans évoquer le passage, par exemple, en gare de Menton, des pèlerins espagnols ou français qui vont à Rome, mais aussi pèlerins italiens qui vont visiter le sanctuaire de Notre-Dame de Laguet. Et je pense que je suis dans les temps.
Tout à fait. Merci.